Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
h 35 sur France Culture, c'est l'heure d'hashtag, le rendez-vous du vendredi matin auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hashtag consacré ce matin à la grande mutation des bibliothèques qui deviennent ce que l'on appelle des tiers-lieux.
Plus de 16 000 bibliothèques en France et les lecteurs sont invités d'ailleurs à se rendre demain soir dans l'une de ces bibliothèques pour la première nuit de la lecture. L'occasion de voir, si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, combien ces bibliothèques ont changé. Plus simplement des lieux de lecture, de prêt de livres, mais des lieux polymorphes avec des salles d'exposition, des scènes de spectacle, des espaces pour le cinéma, la musique, les jeux vidéo, la création numérique et même des lieux de coworking, des espaces de travail partagés, de quoi attirer de très nombreux jeunes.
Je sais que c'est ouvert depuis pas longtemps et je suis content qu'ils aient fait ça parce qu'on est bien ici. Parce qu'en ce moment il fait assez froid dehors, donc c'est assez calme et il fait chaud. Et c'est vraiment à la mode parce que tout le monde en parle, tout le monde vient. Et puis on peut être avec des amis parce qu'il y a beaucoup de place, donc on est bien quoi.
Vous venez d'entendre Lucas, bientôt 16 ans, tous les jours à l'heure du déjeuner. Il vient au Puzzle, la nouvelle médiathèque de Thionville, en Lorraine. Elle a ouvert ses portes en octobre dernier et c'est là, au rayon BD, que Cécile de Kervas-Doué l'a rencontré.
Comme des centaines de jeunes à Thionville, Lucas a adopté la nouvelle médiathèque. Les premiers mois, il y avait 1800 usagers par jour à Puzzle, dont 80% de lycéens. Une foule, d'abord attirée par le lieu magnifique. Car il s'agit d'une immense salle colorée, tout en courbe, en lumière, en confort, avec des espaces pour tous les goûts. Écouter de la musique, regarder des films, prendre un café, jouer aux jeux vidéo, travailler aussi dans des espaces clos, tout ça au milieu des livres. Pourtant les livres, Lucas, lui, n'aime pas ça.
Lire, c'est pas mon truc, quoi. Ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a certains livres, j'aime bien les lire. Oh, les BD, j'aime bien. Un peu tout ce qui touche à l'automobile, j'aime bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis sur mon téléphone. Avec les réseaux sociaux, on peut voir plus de choses que sur les livres. La technologie, maintenant, remplace les livres. C'est pour ça qu'on est énormément dessus.
C'est pour emmener tous ces jeunes vers le livre que Puzzle est né, en s'inspirant d'un concept sociologique américain. L'idée de base, c'est que la voiture et le numérique individualisent la société, que les cafés, les églises sont moins prisés et qu'il est donc urgent de créer des troisièmes lieux, c'est-à-dire des lieux de rencontre collectifs et non communautaires. En France, en 2009, une bibliothécaire a cette idée d'adapter ce concept de troisième lieu aux bibliothèques. La municipalité de Thionville suit en lançant Puzzle avec Sylvie Terrier, chef de projet et aujourd'hui directrice de cette médiathèque tiers-lieu.
Une bibliothèque, c'est un lieu de vie, mais depuis toujours. L'Heure Joyeuse, donc, ça a été la première bibliothèque spécialisée pour les enfants, qui est née grâce à un don d'une association américaine à la ville de Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était un lieu assez incroyable, puisque les premières bibliothécaires, elles étaient adeptes de ce qu'on appelle les méthodes actives. Donc pour elles, le but de cette bibliothèque, c'était l'épanouissement de l'enfant. Et le livre était un moyen. Et donc, elles ont mis en place des activités de théâtre. Ils faisaient des fêtes, etc., etc. C'était plutôt une ruche qu'un temple.
En attendant, les bibliothèques, troisième lieu ou pas, restent des clés de l'aménagement du territoire, surtout lorsque l'on sait que près de 12 millions de Français n'ont pas de bibliothèque près de chez eux.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
h 35 sur France Culture, c'est l'heure d'hashtag, le rendez-vous du vendredi matin auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hashtag consacré ce matin à la grande mutation des bibliothèques qui deviennent ce que l'on appelle des tiers-lieux.
Plus de 16 000 bibliothèques en France et les lecteurs sont invités d'ailleurs à se rendre demain soir dans l'une de ces bibliothèques pour la première nuit de la lecture. L'occasion de voir, si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, combien ces bibliothèques ont changé. Plus simplement des lieux de lecture, de prêt de livres, mais des lieux polymorphes avec des salles d'exposition, des scènes de spectacle, des espaces pour le cinéma, la musique, les jeux vidéo, la création numérique et même des lieux de coworking, des espaces de travail partagés, de quoi attirer de très nombreux jeunes.
Je sais que c'est ouvert depuis pas longtemps et je suis content qu'ils aient fait ça parce qu'on est bien ici. Parce qu'en ce moment il fait assez froid dehors, donc c'est assez calme et il fait chaud. Et c'est vraiment à la mode parce que tout le monde en parle, tout le monde vient. Et puis on peut être avec des amis parce qu'il y a beaucoup de place, donc on est bien quoi.
Vous venez d'entendre Lucas, bientôt 16 ans, tous les jours à l'heure du déjeuner. Il vient au Puzzle, la nouvelle médiathèque de Thionville, en Lorraine. Elle a ouvert ses portes en octobre dernier et c'est là, au rayon BD, que Cécile de Kervas-Doué l'a rencontré.
Comme des centaines de jeunes à Thionville, Lucas a adopté la nouvelle médiathèque. Les premiers mois, il y avait 1800 usagers par jour à Puzzle, dont 80% de lycéens. Une foule, d'abord attirée par le lieu magnifique. Car il s'agit d'une immense salle colorée, tout en courbe, en lumière, en confort, avec des espaces pour tous les goûts. Écouter de la musique, regarder des films, prendre un café, jouer aux jeux vidéo, travailler aussi dans des espaces clos, tout ça au milieu des livres. Pourtant les livres, Lucas, lui, n'aime pas ça.
Lire, c'est pas mon truc, quoi. Ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a certains livres, j'aime bien les lire. Oh, les BD, j'aime bien. Un peu tout ce qui touche à l'automobile, j'aime bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis sur mon téléphone. Avec les réseaux sociaux, on peut voir plus de choses que sur les livres. La technologie, maintenant, remplace les livres. C'est pour ça qu'on est énormément dessus.
C'est pour emmener tous ces jeunes vers le livre que Puzzle est né, en s'inspirant d'un concept sociologique américain. L'idée de base, c'est que la voiture et le numérique individualisent la société, que les cafés, les églises sont moins prisés et qu'il est donc urgent de créer des troisièmes lieux, c'est-à-dire des lieux de rencontre collectifs et non communautaires. En France, en 2009, une bibliothécaire a cette idée d'adapter ce concept de troisième lieu aux bibliothèques. La municipalité de Thionville suit en lançant Puzzle avec Sylvie Terrier, chef de projet et aujourd'hui directrice de cette médiathèque tiers-lieu.
Une bibliothèque, c'est un lieu de vie, mais depuis toujours. L'Heure Joyeuse, donc, ça a été la première bibliothèque spécialisée pour les enfants, qui est née grâce à un don d'une association américaine à la ville de Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était un lieu assez incroyable, puisque les premières bibliothécaires, elles étaient adeptes de ce qu'on appelle les méthodes actives. Donc pour elles, le but de cette bibliothèque, c'était l'épanouissement de l'enfant. Et le livre était un moyen. Et donc, elles ont mis en place des activités de théâtre. Ils faisaient des fêtes, etc., etc. C'était plutôt une ruche qu'un temple.
En attendant, les bibliothèques, troisième lieu ou pas, restent des clés de l'aménagement du territoire, surtout lorsque l'on sait que près de 12 millions de Français n'ont pas de bibliothèque près de chez eux.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Vous écoutez RTL.
RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmont.
8h41, bonjour Rémi.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez déjà de l'avenir de nos enfants en cuisine, pour lutter contre la malbouffe et l'obésité notamment. Des voix s'élèvent pour instaurer des cours de cuisine à l'école.
Oui, de grands chefs comme Alain Ducasse plaident pour cette révolution culinaire à l'école. Le constat est simple et les études le prouvent. L'alimentation, était une histoire de famille. Nos mères émancipées n'ont pas voulu reproduire le schéma classique familial, n'ont pas transmis ce qu'elles ont appris de leur propre mère. Les pères n'ayant pas pris le relais, moins d'un père sur 10 fait la cuisine dans les foyers. Les plats cuisinés de l'industrie agroalimentaire, les crêpes fourrées Yves et les poêlées de légumes, aidant, on a désappris à cuisiner. Il y a des foyers dans lesquels on cuisine, mais ce n'est plus la norme. Quand on interroge les collégiens qui connaissent une recette, 75% d'entre eux déclarent avoir appris à cuisiner leur plat préféré grâce à leur grand-mère. Autrement dit, on a sauté une génération.
D'où cette idée de cours de cuisine obligatoire au collège.
Oui, au collège principalement, à l'âge où l'enfant apprend l'autonomie, où les comportements s'installent, pour voir comment on pourrait procéder. Des expériences pilotes sont menées actuellement dans une quinzaine d'établissements scolaires, à Angoulême, à Montpellier, à Valence notamment, selon un programme de recherche proposé par Émilie Orliange de l'Université de Poitiers.
L'objectif, c'est de faire cuisiner environ tous les 15 jours, pendant 2 à 4 heures, dans le cadre d'un cours de physique-chimie par exemple, puisque les salles s'y prêtent, pour leur permettre de reproduire un certain nombre de recettes. Ça peut être du pain, alors ça peut être des soupes, on peut travailler sur les légumineuses, on peut travailler sur du poisson, la cuisson du poisson c'est très particulier pour les enfants, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et qu'ils puissent ramener ensuite le soir via une petite lunchbox les différentes préparations réalisées pour montrer à la famille ce qu'ils ont pu faire, pour se valoriser auprès d'eux parce qu'ils sont toujours très fiers d'avoir réalisé eux-mêmes des recettes et pour pouvoir transmettre ses connaissances et ses compétences au sein de la famille.
Ce qui existe à l'école pour l'instant, c'est une sensibilisation à la nutrition et les fameuses semaines du goût. En classe, les messages de prévention passent et sont bien intégrés par les enfants. Ne pas manger trop salé, trop sucré, 5 fruits et légumes, etc. Sauf que le plus souvent, les études le prouvent, ça n'induit pas de changement de comportement des enfants ou dans les familles.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Vous écoutez RTL.
RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmont.
8h41, bonjour Rémi.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez déjà de l'avenir de nos enfants en cuisine. Pour lutter contre la malbouffe et l'obésité notamment, des voix s'élèvent pour instaurer des cours de cuisine à l'école.
Oui, de grands chefs comme Alain Ducasse plaident pour cette révolution culinaire à l'école. Le constat est simple et les études le prouvent. L'alimentation, était une histoire de famille. Nos mères émancipées n'ont pas voulu reproduire le schéma classique familial, n'ont pas transmis ce qu'elles ont appris de leur propre mère, les pères n'ayant pas pris le relais. Moins d'un père sur dix fait la cuisine dans les foyers, les plats cuisinés de l'industrie agroalimentaire, les crêpes fourrées Yves et les poêlées de légumes. Aidant, on a désappris à cuisiner. Il y a des foyers dans lesquels on cuisine, mais ce n'est plus la norme. Quand on interroge les collégiens qui connaissent une recette, 75% d'entre eux déclarent avoir appris à cuisiner leur plat préféré grâce à leur grand-mère. Autrement dit, on a sauté une génération.
D'où cette idée de cours de cuisine obligatoire au collège.
Oui, au collège principalement, à l'âge où l'enfant apprend l'autonomie, où les comportements s'installent, pour voir comment on pourrait procéder. Des expériences pilotes sont menées actuellement dans une quinzaine d'établissements scolaires, à Angoulême, à Montpellier, à Valence notamment, selon un programme de recherche proposé par Émilie Orliange de l'Université de Poitiers.
L'objectif, c'est de faire cuisiner environ tous les 15 jours, pendant 2 à 4 heures, dans le cadre d'un cours de physique-chimie par exemple, puisque les salles s'y prêtent, pour leur permettre de reproduire un certain nombre de recettes. Ça peut être du pain, alors ça peut être des soupes, on peut travailler sur les légumineuses, on peut travailler sur du poisson. La cuisson du poisson, c'est très particulier. Pour les enfants, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et qu'ils puissent ramener ensuite, le soir, via une petite lunchbox, les différentes préparations réalisées pour montrer à la famille ce qu'ils ont pu faire, pour se valoriser auprès d'eux, parce qu'ils sont toujours très fiers d'avoir réalisé eux-mêmes des recettes, et pour pouvoir transmettre ses connaissances et ses compétences au sein de la famille.
Ce qui existe à l'école pour l'instant, c'est une sensibilisation à la nutrition et les fameuses semaines du goût. En classe, les messages de prévention passent et sont bien intégrés par les enfants. Ne pas manger trop salé, trop sucré, 5 fruits et légumes, etc. Sauf que le plus souvent, les études le prouvent, ça n'induit pas de changement de comportement des enfants ou dans les familles.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 3. Première écoute. Document numéro 1.
tout de suite 6h18 et c'est à vous Emmanuel Moreau, notre Géo trouve tout. Ce matin, des opérations coup de poing pour lutter contre les suremballages des produits et ça s'appelle Plastique Attaque.
Eh oui, et Hélène, la prochaine opération aura lieu le 2 juin prochain. La France ne sera pas épargnée. Le supermarché parisien visé sera l'occasion pour le public de découvrir l'utilisation inconsidérée des plastiques d'emballage, comme le confirme Mathilde Gollat du Figaro Demain, qui a suivi les préparatifs.
L'opération qui s'appelle la Plastique Attaque est très simple. En fait, les gens vont aller faire leurs courses tout bonnement, tout simplement dans ce magasin-là. Ils vont payer leurs courses et en sortant du magasin, ils vont laisser tous les emballages superflus sur place pour montrer toute la quantité inutile de plastique qu'on peut utiliser au quotidien.
Document numéro 2.
Et d'abord, le micro est à vous, Emmanuel Moreau. Bonjour.
Bonjour, Mathilde Munoz.
Dans votre esprit d'initiative ce matin, deux hôpitaux parisiens, Cochin et La Pitié-Salpêtrière, qui essaient de limiter le gaspillage alimentaire.
Cette initiative préparée de longue date est l'application, en fait, de la loi alimentation qui vient d'être votée et qui étend aux cantines collectives l'obligation de donner leurs excédents alimentaires à des associations. En l'espèce, les bénéficiaires sont les Restaurants du Cœur et l'association Entraide et Partage avec les Sans-Logis.
Alors évidemment, il s'agit pas d'aller fouiller dans les restes des poubelles de la PHP. Hein.
Bah, bien sûr que non. La preuve, regardez. Les opérations débutent en fin de service aux alentours de 14h, Mathilde. Là, une équipe identifie dans un premier temps les denrées non consommées afin de trier celles qui sont éligibles aux dons et celles qui ne le sont pas. Il est vérifié entre autres que les emballages n'aient pas été dégradés et la chaîne du froid bien respectée. Une fois cet inventaire réalisé, aux alentours de 16h, le personnel informe Écosphère du type de produit et des quantités disponibles. La société prévient alors les associations qui vont recevoir les dons.
Document numéro 3.
Le chiffre du jour, 10 millions de tonnes, c'est la quantité de nourriture que l'on jette chaque année en France. Toutes les semaines, chacun d'entre nous envoie à la poubelle l'équivalent d'un repas. Et en ce jour national de lutte contre le gaspillage alimentaire, une pétition demande de modifier les mentions sur les étiquettes à consommer jusqu'au, vous connaissez. Nous jetons tous les ans 7 kilos de produits emballés, donc qui n'ont jamais été ouverts. Les dates de péremption y sont pour beaucoup.
Alors faut-il supprimer les dates limites de consommation sur les produits? C'est la question de 8h.
Avec vous, Virginie Guérin, bonjour.
Bonjour.
Ces dates sont-elles fiables? Ont-elles encore un sens?
Non, enfin, en tout cas pas toujours, car elles donnent une indication, mais ce sont les fabricants eux-mêmes qui les fixent, et souvent elles sont bien trop courtes. Il y a quelques années, un médecin guadeloupéen avait soulevé un lièvre. Il avait remarqué que pour exactement le même yaourt, de la même marque, la date limite était en métropole de 30 jours et de 50 jours aux Antilles. Or, il n'y a jamais eu plus d'intoxication aux Antilles. Alors, souvent un yaourt, vous pouvez le manger 3 semaines après la date limite. Il suffit d'ouvrir et de sentir. Ces dates sont parfois du marketing pour nous inciter à racheter. Il y a 2 produits pour lesquels elles sont obligatoires quand même et contrôlées. Le lait cru, 3 jours pas plus après la traite, et les œufs, 28 après la pompe.
Sujet numéro 3. Deuxième écoute. Document numéro 1.
Tout de suite 6h18 et c'est à vous Emmanuel Moreau, notre Géo trouve tout. Ce matin, des opérations coup de poing pour lutter contre les suremballages des produits et ça s'appelle Plastique Attaque.
Eh oui. Et Hélène, la prochaine opération aura lieu le 2 juin prochain. La France ne sera pas épargnée. Le supermarché parisien visé sera l'occasion pour le public de découvrir l'utilisation inconsidérée des plastiques d'emballage, comme le confirme Mathilde Gollat du Figaro Demain, qui a suivi les préparatifs.
L'opération qui s'appelle la Plastique Attaque est très simple. En fait, les gens vont aller faire leurs courses tout bonnement, tout simplement dans ce magasin-là. Ils vont payer leurs courses et en sortant du magasin, ils vont laisser tous les emballages superflu sur place pour montrer toute la quantité inutile de plastique qu'on peut utiliser au quotidien.
Document numéro 2.
Et d'abord, le micro est à vous, Emmanuel Moreau. Bonjour.
Bonjour, Mathilde Munoz.
Dans votre esprit d'initiative ce matin, deux hôpitaux parisiens, Cochin et La Pitié-Salpêtrière, qui essaient de limiter le gaspillage alimentaire.
Cette initiative, préparée de longue date, est l'application, en fait, de la loi alimentation qui vient d'être votée et qui étend aux cantines collectives l'obligation de donner leurs excédents alimentaires à des associations. En l'espèce, les bénéficiaires sont les Restaurants du Cœur et l'association Entraide et Partage avec les Sans-Logis.
Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller fouiller dans les restes des poubelles de la PHP. Hein.
Bah, bien sûr que non. La preuve, regardez. Les opérations débutent en fin de service aux alentours de 14h, Mathilde. Là, une équipe identifie dans un premier temps les denrées non consommées afin de trier celles qui sont éligibles aux dons et celles qui ne le sont pas. Il est vérifié entre autres que les emballages n'aient pas été dégradés et la chaîne du froid bien respectée. Une fois cet inventaire réalisé, aux alentours de 16h, le personnel informe Écosphère du type de produit et des quantités disponibles. La société prévient alors les associations qui vont recevoir les dons.
Document numéro 3.
Le chiffre du jour, 10 millions de tonnes, c'est la quantité de nourriture que l'on jette chaque année en France. Toutes les semaines, chacun d'entre nous envoie à la poubelle l'équivalent d'un repas. Et en ce jour national de lutte contre le gaspillage alimentaire, une pétition demande de modifier les mentions sur les étiquettes à consommer jusqu'au, vous connaissez. Nous jetons tous les ans 7 kilos de produits emballés, donc qui n'ont jamais été ouverts. Les dates de péremption y sont pour beaucoup.
Alors faut-il supprimer les dates limites de consommation sur les produits? C'est la question de 8h.
Avec vous, Virginie Guérin, bonjour.
Bonjour.
Ces dates sont-elles fiables? Ont-elles encore un sens?
Non, enfin, en tout cas pas toujours, car elles donnent une indication, mais ce sont les fabricants eux-mêmes qui les fixent, et souvent elles sont bien trop courtes. Il y a quelques années, un médecin guadeloupéen avait soulevé un lièvre. Il avait remarqué que pour exactement le même yaourt, de la même marque, la date limite était en métropole de 30 jours et de 50 jours aux Antilles. Or, il n'y a jamais eu plus d'intoxication aux Antilles. Alors, souvent un yaourt, vous pouvez le manger 3 semaines après la date limite. Il suffit d'ouvrir et de sentir. Ces dates sont parfois du marketing pour nous inciter à racheter. Il y a 2 produits pour lesquels elles sont obligatoires quand même et contrôlées. Le lait cru, 3 jours pas plus après la traite, et les œufs, 28 après la pompe.